VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mercredi 2 octobre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, au moins 25 soldats maliens et 15 djihadistes ont été tués dans des combats intenses dans le centre du pays.
Au Cameroun, plusieurs personnalités politiques exigent un débat sur la forme de l'État lors du grand dialogue national.
L'affaire ukrainienne, le président Donald Trump, qui est menacé par une procédure de destitution, dénonce, je cite, un coup d'État.
En Irak, deux personnes ont été tuées et 200 autres blessées dans la dispersion de manifestations à Bagdad et dans le sud du pays.
La Corée du Nord tire des projectiles ou missiles balistiques de courte portée après avoir annoncé des discussions sur le nucléaire avec Washington.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, au moins 25 soldats maliens ont été tués dans des combats intenses lundi et mardi pour le contrôle de deux camps militaires attaqués dans le centre du pays par des djihadistes. Ces derniers ont eux-mêmes perdu 15 hommes, a indiqué le gouvernement malien. Les précisions de notre correspondant Kassim Traoré.
Suite aux doubles attaques de Mondoro et Boulkessi le lundi dernier, hier l'armée malienne a livré une bataille pour reprendre au centre des positions tombées aux mains des présumés djihadistes. En effet, c'est un bataillon de l'armée malienne sous le commandement de la force conjointe du G5 Sahel qui était sous contrôle des terroristes. Dans les rangs des FAMA, le bilan provisoire fait état de 25 morts, 4 blessés évacués par aéronef des FAMA sur Sévaré, une soixantaine de portées disparues et de lourdes pertes en matériel. L'identification se poursuivait car il s'agissait des victimes des deux jours de combat. Selon le gouvernement malien, c'est après un déploiement des forces spéciales maliennes le lundi dernier dans la zone de combat, c'est-à-dire Boulkessi et Mondoro, que les FAMA, malgré les tirs de harcèlement des terroristes, ont pu récupérer le camp de Boulkessi hier soir. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Cameroun, plusieurs personnalités politiques ont profité du grand dialogue national pour aborder des questions sur la forme de l'État. Ce sujet est exclu par le pouvoir qui veut une rencontre destinée à résoudre la crise anglophone. Eric Manirakiza.
John Frundi, leader du SDF, principal parti d'opposition, a exigé un retour au fédéralisme, comme c'était le cas avant son abolition en 1961. Si ces propositions sont ignorées, le SDF menace de se retirer du dialogue. Akere Muna, anglophone opposant et avocat de renom, a claqué la porte, dénonçant le refus d'ouvrir un débat sur la forme de l'État. Une autre opposante, Alice Sadio, ne participe plus aux travaux, dénonçant un grand monologue hypocrite. En convoquant ce dialogue, le président Paul Biya avait exclu toute discussion sur le fédéralisme, la sécession et son statut de président. Mais lundi à l'ouverture, une figure du RDPC, le parti au pouvoir, Ibrahim Mbombo Njoya, sultan de Fumban, a quand même posé la question de l'alternance au sommet de l'État. Selon lui, le seul remède pour guérir le mal et la limitation des mandats présidentiels à deux. Le Premier ministre Joseph Dion Nguté a dû lui faire un rappel à l'ordre. Le dialogue national s'est poursuivi hier à huis clos dans des travaux en commission.
En Tunisie, la Cour d'appel de Tunis a rejeté hier une nouvelle demande de libération du candidat au second tour de la présidentielle, Nabil Karoui. C'est ce qu'a indiqué un de ses avocats, moins de deux semaines avant le scrutin prévu le 13 octobre. Nabil Karoui est poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. La date de son arrestation, 10 jours avant le début de la campagne, avait suscité des interrogations sur une instrumentalisation de la justice par le politique.
Au Malawi, la police a dispersé avec des gaz lacrymogènes hier à Lilongwe des partisans de l'opposition. Un d'entre eux aurait été grièvement blessé par balle. Les manifestants exigeaient la démission de la présidente de la commission électorale, accusée d'avoir supervisé des fraudes lors de la présidentielle de mai. Cette élection a été remportée, selon les résultats officiels, par le président sortant Peter Mutharika, à la tête du Malawi depuis 2014, face à son principal adversaire, Lazarus Chakwera.
En Afrique du Sud, le nombre d'adolescents de 15 à 19 ans traités pour le VIH a décuplé au cours de la dernière décennie. Mais, déplorent des chercheurs, moins de la moitié de ceux qui se présentent pour des soins entreprennent le traitement. L'Afrique du Sud est considérée comme le pays qui a le plus grand nombre de personnes vivant avec le virus du sida, soit approximativement 7,2 millions.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'affaire ukrainienne, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, et l'avocat personnel du président Donald Trump, Rudy Giuliani, refusent le calendrier que veulent leur imposer les élus démocrates. Du Congrès, ces derniers tentent de lancer une procédure de destitution contre le président. Le point avec Abdulrahman Dia.
En réponse aux injonctions des parlementaires démocrates, le secrétaire d'État Mike Pompeo a jugé hier qu'il n'était pas faisable que le Congrès commence dès ce mercredi à entendre 5 diplomates sur la controverse concernant l'Ukraine. Le secrétaire d'État, qui lui-même est l'objet d'une injonction formelle de 3 commissions du Congrès, s'est exprimé dans une lettre virulente adressée à la Chambre des représentants. L'un des 5 diplomates, Kurt Volker, l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Ukraine, a démissionné vendredi. Selon Mike Pompeo, ces injonctions sont une tentative d'intimider, de harceler et de maltraiter les éminents professionnels du département d'État. Sommé lui aussi de livrer des documents au Congrès, l'avocat personnel du président Rudy Giuliani a tweeté que l'injonction soulevait de graves questions en termes de légitimité et de constitutionnalité. Les démocrates reprochent à Donald Trump d'avoir demandé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur l'ancien vice-président et candidat à la nomination démocrate Joe Biden.
Ajoutons que le président Trump a dénoncé hier soir ce qu'il a appelé un coup d'État. Il a écrit dans un tweet, je cite, « J'en arrive à la conclusion que ce qui est en train de se passer n'est pas un impeachment, c'est un coup d'État visant à prendre le pouvoir du peuple, son vote, ses libertés, son deuxième amendement de la Constitution, sa religion, son armée, son mur à la frontière » et les droits qui lui ont été donnés par Dieu en tant que citoyenne des États-Unis d'Amérique. Fin de citation.
En Irak, 2 manifestants ont été tués et 200 personnes blessées hier lors de manifestations dispersées par la force à Bagdad et dans le sud du pays. Il s'agit de la première contestation sociale d'envergure depuis la mise en place du gouvernement il y a près d'un an. Les précisions d'Irénée Herman Umbo.
À Bagdad, plus d'un millier de manifestants se sont rassemblés pour réclamer du travail et des services publics fonctionnels. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles. Pendant plusieurs heures, des salves ont résonné dans le centre de la capitale irakienne avec une fumée noire s'élevant de la place Tahrir, rendez-vous traditionnel des protestataires. Des manifestations pour dénoncer la corruption et réclamer du travail ont été également dispersées à Nasiriyah dans la province de Zikar et à Najaf au sud de Bagdad. Un manifestant a été tué et 2 autres blessés, dont un grièvement, tandis que 25 membres des forces de l'ordre ont été blessés, a indiqué le directeur de la santé de Zikar, Abdel Hussein Al-Jaberi. Le ministère de la Santé a fait état dans un communiqué d'un civil tué et 200 blessés, dont 160 civils et 40 membres des forces de l'ordre à Bagdad.
La Corée du Nord a tiré ce mercredi des projectiles en direction de la mer du Japon, selon l'état-major sud-coréen. La veille, Pyongyang avait annoncé la tenue samedi de discussions de travail sur le nucléaire avec Washington, discussions qui devraient relancer le processus diplomatique 8 mois après l'échec du sommet de Hanoï. Le premier ministre japonais a condamné pour sa part ce tir de missile balistique qui viole les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, a-t-il dit. Depuis juillet, Pyongyang a multiplié des tirs de missiles de courte portée qualifiés de provocation par des responsables américains, même si le président Trump s'est montré nettement plus conciliant.
Au Pérou, le président Martin Vizcarra a consolidé hier son pouvoir après la dissolution du Parlement en obtenant le soutien des chefs militaires, des gouverneurs et des maires dans son bras de fer avec les députés qui l'ont suspendu pour un an. Le pays a vécu une soirée d'incertitude lundi lorsque M. Vizcarra a prononcé la dissolution du Parlement contrôlé par l'opposition fujimoriste qui avait riposté en votant sa suspension pour un an et son remplacement par la vice-présidente Mercedes Araos.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson détaillera ce mercredi l'offre finale sur la sortie de l'UE qu'il soumettra à Bruxelles dans son discours de clôture du congrès du Parti conservateur. On s'attend à ce qu'il lance un ultimatum. C'est à prendre ou à laisser. Selon ses services, ces propositions formelles doivent permettre de conclure un compromis juste et raisonnable pour éviter un Brexit sans accord. M. Johnson a promis de quitter l'UE le 31 octobre.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Tchad bénéficiera d'un prêt de 18 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour le projet de sa centrale solaire photovoltaïque de Diermaya d'une capacité de 32 MW. Longue de 30 km, l'infrastructure comprend une ligne aérienne de transport à double circuit de 33 kV, deux transformateurs de 33 et 90 kV à la sous-station de Lamadi et un système de batterie de 4 MWh pour la stabilisation du réseau. Le projet contribuera à réduire les coûts de production d'électricité et augmentera la puissance électrique du pays tout en réduisant les émissions carbone de 38 000 tonnes par année. La Côte d'Ivoire va plafonner la production de cacao à 2 millions de tonnes à partir de l'année prochaine afin de soutenir les prix. Le premier producteur mondial de cacao envisage de limiter cette production en coordination avec son voisin le Ghana afin de faire face à un marché surapprovisionné. Les deux pays produisent environ 60% du cacao mondial. Ils se sont associés au cours des derniers mois pour imposer un prix plancher minimum afin d'influencer davantage les prix internationaux. Pour terminer, l'Union européenne veut investir 6 milliards de francs CFA pour renforcer les écosystèmes de mangroves dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest, le Togo, le Bénin, le Sénégal, la Gambie, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et le Ghana. Le projet sera mis en œuvre pour une durée de 4 ans pour la restauration des zones humides. Il s'axera autour de la préservation des mangroves, notamment en matière d'économie verte et de gouvernance participative.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les chapeaux pour le tirage au sort des poules en Ligue des Champions sont connus.
Oui, le pot 1 renferme le champion en titre l'Espérance de Tunis, le tout-puissant Mazembe, le Wydad Casablanca et Al Ahly. Dans le pot 2, on retrouve l'étoile du Sahel, Zamalek en attente de confirmation, et le Raja Casablanca, l'USM Alger, Zesco United, l'AS Vita Club et Al Hilal composent le pot 3. Primero de Agosto, le FC Platinum, Petro de Luanda et la JS Kabylie partagent le pot 4. La cérémonie du tirage au sort aura lieu le 9 octobre en Égypte.
Ligue des champions ce soir en Europe.
Sadio Mané, Naby Keïta et Mohamed Salah de Liverpool et Salzbourg ont beaucoup en commun et leur rencontre de ce soir à Anfield promet du rythme pour la deuxième journée de Ligue des champions, d'autant que les Reds sont en alerte rouge après leur départ raté à Naples. Lille et Chelsea joueront la carte des jeunes. Le LOSC, qui mise sur la jeunesse depuis deux saisons, assume cette stratégie que les Blues ont subie en raison de leur impossibilité de recruter imposée par l'UEFA.
Hier, le Real a visé l'humiliation contre Bruges.
Deux semaines après leur déroute chez le Paris Saint-Germain 3-0, les Merengues ont frôlé la catastrophe en étant menés 2-0 par le club belge. Mais Sergio Ramos puis Casemiro ont permis au club aux 13 couronnes de Ligue des Champions de recoller au score. Le club madrilène n'a jamais été éliminé en phase de poule de la Ligue des Champions. De son côté, l'Atalanta Bergame a perdu face au Shakhtar Donetsk 1-2. Tottenham, finaliste sortant, a subi une humiliation à domicile 7-2 contre le Bayern Munich et son ailier Serge Gnabry, auteur d'un quadruplé. 3-0 pour la Juventus Turin qui recevait le Bayern Leverkusen. Service minimum pour le Paris Saint-Germain vainqueur 1-0 devant Galatasaray.
Nice licencie son joueur qui avait volé la montre d'un coéquipier.
Lamine Diaby Fadiga avait reconnu être l'auteur du vol de la montre d'une valeur de 70 000 euros de Casper Dolberg, survenu le 16 septembre dans le vestiaire. Ma situation d'échec contrastait avec la réussite et l'aura de Casper, mon coéquipier. Je m'en suis pris à lui sans aucune raison, peut-être de la jalousie, a confessé le jeune français de 18 ans dans un message sur Instagram. Le recrutement cet été du buteur danois avait relégué Fadiga dans l'équipe des moins de 19 ans de Nice, où il a reçu un carton rouge. Il a aussi été blessé, ce qui a, dit-il, accentué sa frustration. Il a présenté ses excuses et s'était engagé à rembourser l'avant-centre international danois, ce qu'il a fait.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, des populations fuient les villages situés à quelques 150 km de la capitale Ouagadougou. Les groupes terroristes qui sévissent dans l'extrême nord du pays se sont beaucoup rapprochés de la capitale. Le département d'État américain a classé la quasi-intégralité du pays en rouge et conseillé aux voyageurs de reconsidérer leurs déplacements. Récemment, des bases militaires ont été détruites et des armes saisies par des terroristes. Pour comprendre cette détérioration de la situation, Bagassi Koura s'est entretenu avec Jean-Pierre Bayala. Il est colonel de l'armée burkinabé à la retraite.
Depuis bientôt plus de 3 ans, le Burkina est en proie à ces attaques-là. Je suis rappelé aussi qu'il y a eu des attaques en plein cœur de notre capitale, de Ouagadougou. Cela veut dire aussi que ces terroristes, naturellement, ils n'ont pas de lieu de prédilection en tant que tel. Ils font des coups d'essai pour voir où ils peuvent frapper. Ceci peut expliquer cela. Mais seulement, il faut se rappeler que les choses ont commencé dans le nord. Et le Sahel, cela est dû au fait que ces terroristes, pour la plupart, sont descendus, nous ont envoyés à partir du Mali. Il faut tenir aussi compte de la complexité de la situation. Aujourd'hui, il serait un peu illusoire de penser qu'il s'agit du terrorisme pur et dur. Et il faut également tenir compte aussi de la situation politique dans le Burkina.
On a l'impression aussi que l'armée n'a jamais su s'adapter à la nouvelle donne et qu'elle est dépassée.
L'armée ne pouvait pas s'adapter dans la manière où il y a eu un effet de surprise totale. On aurait pu, à partir de 2012, où une étude a été menée sur les conséquences possibles de la guerre du Mali sur le Burkina, la sonnette d'alarme avait été donc, il avait été fortement question qu'après le Mali, le Burkina serait dans l'œil du cyclone. Malheureusement, les dispositions n'ont pas été prises à l'époque. Et vous comprenez que l'ancien régime, il faut aussi se rappeler que ces terroristes qui frappaient le Mali pouvaient souvent refuser auprès du Burkina.
Si l'armée ne s'est pas adaptée, comment est-ce qu'on pourra venir à bout de ce phénomène-là, le terrorisme?
Ben, le terrorisme, d'abord, je ne sais pas quel pays peut venir au bout du terrorisme. Le terrorisme, si vieux que la guerre, c'est une affaire aujourd'hui mondiale. Nous sommes dans un village planétaire aujourd'hui. S'il n'y a pas un élan de solidarité, s'il n'y a pas une cohésion au sein de la communauté internationale, il sera difficile à un État de se créer une île de paix.
C'était Jean-Pierre Bayala, colonel de l'armée burkinabé à la retraite. Il était joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En République centrafricaine, la situation humanitaire et sécuritaire est jugée catastrophique à Birao, dans le nord-est du pays. Depuis les affrontements au cours du mois écoulé entre les groupes armés dans la ville, plus de 13 000 personnes vivent dans de mauvaises conditions dans les camps de déplacés. De Bangui, reportage de Freeman Sipila.
Les affrontements du 1er et du 8 septembre dernier entre les groupes armés rivaux FPRC et MNCJ ont plongé la ville de Birao dans la précarité. En dehors du nombre de morts estimé à une soixantaine, plusieurs maisons et commerces ont été détruits et des quartiers vidés de leurs habitants. Sur les 3 sites que compte la ville, la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. De retour d'une visite dans la localité, la ministre de l'Action humanitaire Virginie Baïkoua se dit inquiète et propose des actions.
Trouver une population encore affectée par les événements de ces derniers temps et vous savez, ils ont peur. Donc il faut réunir les conditions sécuritaires pour parler de retour. On a identifié des besoins et il faut apporter les réponses. Par exemple, ils sont affectés. Il faut les aider à dépasser la peur. Il faut aussi améliorer leurs conditions de vie. Ils sont dans des huttes qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc il faudrait améliorer les abris. Il y a beaucoup de choses à faire.
L'insalubrité, les mauvaises conditions de vie sur les cite, oblige certains déplacés à braver l'insécurité et à regagner leurs habitations. Certains déplorent le manque de médicaments, d'autres se plaignent d'une prise en charge sanitaire insignifiante. Pour Dr Pierre Somsi, ministre de la Santé publique, des dispositions sont déjà prises.
Une organisation a été mise en place, donc centrée sur l'hôpital bien sûr, mais comportant des unités qui sont installées dans les sites, qui sont des unités pour la prise en charge d'urgence, dans les cas de palu par exemple, et tous les cas graves sont repérés à partir de ces unités à l'hôpital. Je crois que le système actuel est adéquat. Donc nous verrons avec l'évolution de la situation dans quelle mesure renforcer ces différentes stations au niveau du centre. Il y a aussi d'ailleurs au niveau de l'un des centres une tente pour des blessés, puisqu'il y a eu des blessés qui ont dû être remis à leur communauté. Et donc il y a une tente qui suit ces blessés-là sur place.
L'avenir scolaire de nombreux enfants confinés sur les sites des déplacés est aussi menacé. Conscient de cette situation, l'UNICEF propose des alternatives. Christine Mouigana, sa représentante en République centrafricaine.
Nous avons eu déjà la semaine dernière une mission d'évaluation pour voir comment une rentrée scolaire pourrait se faire à Birao. D'habitude, dans ce genre de circonstances, ce qu'on essaie de faire pour parer au plus pressé, c'est d'établir ce qu'on appelle des espaces temporaires d'apprentissage pour les enfants, où on pourrait s'assurer que si les enseignants sont là, si on a un minimum de matériel pédagogique et d'espace pour les enfants, qu'ils puissent commencer un semblant d'année scolaire en attendant qu'ils puissent retourner à l'école. Mais c'est une préoccupation qui nous a été clairement exprimée par les autorités là-bas, par les communautés, et nous allons y travailler avec les partenaires qui sont rassemblés.
Malgré l'accalmie observée depuis plusieurs jours à Birao, les habitants craignent encore un regain de violence. Cette inquiétude fait que plus de 13 000 personnes sont toujours massées sur les sites des déplacés, occasionnant ainsi la paralysie des activités dans la ville. Freeman Sipila, Bongui pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
République démocratique du Congo, quatre gouverneurs de province étaient dans la délégation du président Félix Tshisekedi aux discussions avec le président de la Banque mondiale lundi, ici à Washington. Eddie Isango a reçu dans nos studios celui de la province de l'Ituri, Jean Bamanissa.
L'institution Banque mondiale qui est en train de mettre en place une nouvelle procédure qui va peut-être être un peu plus souple, qui est celle d'avoir ses bureaux à l'intérieur du pays. Donc un bureau va s'ouvrir à Goma, un autre à Kananga. Celui de Goma va couvrir les provinces de l'Est et celui de Kananga, ceux du centre. Donc il était question que nous puissions proposer, suivant notre programme d'appui prioritaire, quelques propositions pour que la banque puisse nous accompagner. Nous avons effectivement ramener encore les questions de stabilité qui passent par la restauration de l'autorité de l'État, c'est la justice, c'est les équipements, c'est l'administration. Au niveau de la diversité économique, c'est les routes qui soient des corridors et qui puissent permettre ce que les développements puissent se faire le long de ces routes. La Banque mondiale a été très attentive et nous l'en remercions. Et les questions que, en tout cas, son intervention soit doublée par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent. On était à 500, 600 millions.
Vous êtes à la tête d'une province qui a été meurtrie longtemps par des conflits interethniques et même des guerres. Aujourd'hui, on assiste à une certaine résurgence de ces conflits. Comment pensez-vous résoudre ces problèmes ?
Depuis deux ans, on a connu encore un nouveau cycle. Nous sommes en train d'y aller par deux voies parce que malheureusement, c'est vrai que quelquefois les conditions s'y prêtent quand on regarde le chômage, le manque d'éducation, le commerce criminel qui se fait sur des ressources naturelles, que ce soit le bois, le braconnage, que ce soit les matières précieuses comme l'or, etc., qui fait que, avec la proximité de frontières, il y ait plutôt une économie informelle qui soit favorable. Donc nous nous battons pour que le formel puisse prendre la place et que les dissensions entre les communautés puissent se taire. Et pour cela, c'est vrai que depuis deux ans, on a vu dans le territoire de Djougou une recrudescence de violence qui a été puisée, en tout cas en prenant des éléments, surtout dans une communauté de Djougou, la communauté Balé, où il y a vraiment un travail qui est en train de se faire avec les leaders maintenant pour arrêter cet endoctrinement de certaines personnes contre des populations alentour, les Alours, les Emma, etc.
Tous les Congolais qui ont été déférés au niveau de la CPI pour les affaires congolaises sont venus de votre région. Mais cela n'a-t-il pas suffi à donner la leçon pour mettre fin à ces tueries ou qui continuent?
Nous devions avoir plutôt des résultats qui sont dissuasifs pour que les personnes ne prennent plus ce chemin. Effectivement, il nous faut peut-être un autre tribunal ou il nous faut renforcer nos tribunaux. S'il n'est pas nécessaire d'aller se faire juger par les lois sont les mêmes, les lois pénales sont les mêmes, mais si nous avons des bonnes capacités de nos juridictions au niveau de la RDC et que nous avons des prisons qui ne sortiront pas des personnes qui vont revenir encore à cela, nous pensons que nous allons pouvoir vaincre.
C'était Jean Bamanissa, gouverneur de la province de l'Ituri, dans nos studios ici à Washington.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
En Côte d'Ivoire, l'accès aux soins de santé reste un défi majeur. Le pays compte un seul centre d'ophtalmologie pédiatrique ouvert à Abidjan en février dernier. Ailleurs, comme par exemple à Boaké, les habitants affirment que c'est très difficile d'avoir des soins oculaires pour les enfants. Reportage de notre correspondant sur place, Siriki Baro.
La prise en charge des enfants souffrant de maladies de vue reste difficile dans le reste du pays. C'est le cas de Boaké, deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire. Personnel médical en nombre insuffisant, manque de matériel, autant de difficultés dans la prise en charge de ces enfants. Service d'ophtalmologie de l'hôpital Saint-Camille. La salle d'attente grouille de patients. Dans son bureau, Dr Diakité Seydou est en pleine consultation. Parmi ses patients, on y compte des enfants comme Allegra Marie-Thérèse. Âgée de 13 ans, cette fillette a les yeux tout rouges.
Ça me fait mal et puis la vue au soleil et puis à l'ombre n'est pas trop...
Les enfants que reçoit Dr Diakité Seydou présentent divers types de maladies oculaires.
Les constatations pour les enfants en ophtalmo, c'est en général les conjonctivites, les maladies infectieuses, inflammatoires, et puis les amyotrophies, les poids de lunettes, puis il y a les traumatismes chez les enfants, les cataractes congénitales.
Il est impossible d'assurer une prise en charge médicale totale dans certains cas, selon Dr Diakité, en raison de la pauvreté du plateau technique à leur disposition.
Vraiment, il y a ce problème de plateau technique pour les diagnostics. Et puis, les examens complémentaires, on est limité. Dans les tumeurs, on est obligé de débarquer sur la piche.
Pour la Côte d'Ivoire, qui dispose d'un seul centre d'ophtalmologie pédiatrique installé au centre universitaire hospitalier de Trècheville à Abidjan, le projet Child Eye Care vient pour apporter un début de solution pour une meilleure prise en charge des enfants qui présentent une déficience visuelle. C'est un projet piloté par la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Comelin Christine est la coordonnatrice de ce projet.
Aujourd'hui, avec la CDM, nous avons la construction à Boaké, un plateau technique d'opération. Nous comptons prendre en charge 9000 enfants que nous allons opérer.
Selon l'OMS, ce sont près de 200 millions de personnes à l'échelle mondiale qui présentent une déficience de la vue avec une forte proportion d'enfants. Siriki Baro, Boaké, VOA Afrique.
Abdelrahman Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, le grand dialogue national initié par le président Paul Biya a été lancé lundi à Yaoundé. L'objectif est de tenter de mettre un terme au conflit qui secoue la partie anglophone du Cameroun depuis deux ans. Toutefois, ce dialogue se tient sans les principaux leaders séparatistes emprisonnés. Le dialogue national pourra-t-il aboutir à une décrispation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Quel rôle pour la société civile, la classe politique et l'Église dans le règlement du conflit? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Le aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Nikolaï Ivanov. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seludia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.